Donc on va continuer sur le théâtre. Donc je rappelle où on en était resté sur un gros morceau donc qui est au cœur de l'interprétation de Nietzsche. Donc je vous rappelle, c'est les deux personnages conceptuels, Apollon et Dionysos. Donc deux personnages conceptuels, ça veut dire que dans la personne d'Apollon et de Dionysos s'exprime un monde, une idée, enfin s'exprime une réalité, hein, voilà, c'est une manière de penser par des concepts qui ne sont pas des définitions, mais par des personnages qui est beaucoup plus riche et ça parle à l'imagination, enfin c'est plus compliqué. Donc je rappelle le contenu de ces deux personnages conceptuels, c'est donc l'Apollinien et le Dionysiaque, et donc je rappelle la liste des c'est donc deux personnages conceptuels qui s'opposent l'un à l'autre, puisque d'un côté, du côté d'Apollon, vous avez la mesure, du côté de Dionysios, vous avez la démesure, du côté d'Apollon, vous avez la limite, l'illimité du côté de Dionysos, le fini d'un côté, l'infini de l'autre, la forme d'un côté et le contenu de l'autre, hein, l'excès de forme. Donc, le problème, mais je reconnais que le problème, il n'est pas simple, mais c'est justement un problème sur lequel il faut continuer de réfléchir, c'est comment ces deux réalités sont à la fois contradictoires, radicalement contradictoires, c'est les deux pôles opposés, et en même temps, ces deux réalités qui vont toujours ensemble, qui sont complètement complémentaires. Donc, il n'y a pas de contenu sans forme. Il y a un excès de forme, éventuellement. L'anarchie, ça serait un excès de forme. Donc, si on va jusqu'à la limite, c'est effectivement le chaos. C'est le fait qu'on est sous le coup d'une masse d'informations telles qu'on n'arrive plus à les articuler entre elles, etc. Et s'il y a une forme sans contenu, la forme, elle devient vide et elle devient mortelle. Donc, une simple forme... Donc trop d'amour, ça, on cassera des vitres, enfin non, des vases ou je sais pas quoi, et on dira, enfin quand votre chien vient vers vous, il vous aime tellement qu'il foule, voilà. Par contre, si vous aviez un chien très policé qui vous dit, je ne te hais point, pour reprendre disons qu'un chien vraiment trop policé, on finit par douter de ses sentiments. Voilà. Donc il y aurait les sentiments et c'est l'expression et les sentiments. Voilà, il y aurait ça. Donc ce qui intéresse Nietzsche, c'est la façon dont le monde grec a essayé de mettre ensemble ces deux forces contradictoires, la thèse de Nietzsche étant que plus les deux pôles opposés... C'est comme deux piles électriques, là je n'utilise pas les Grecs évidemment, mais c'est Proudhon qui explique ça, c'est que les contradictions proudhoniennes, c'est bien comme une pile électrique, deux pôles radicalement opposés, et si vous arrivez à tenir ensemble deux forces radicalement différentes et même opposées, antagonistes, antinomiques, dirait Proudhon, c'est ça la vie. La vie, c'est l'association des contraires, voilà, ça serait ça. Et de bien choisir les contraires qu'on associe. S'il y a des contraires qui sont mortels et qui tuent, qui produisent rien, et il y a des contraires qui produisent du nouveau et du commun. Enfin, c'est la thèse proudhonienne, c'est la dialectique proudhonienne, je vous en ai parlé la dernière fois. Donc c'est là où on retrouve Nietzsche sur cette volonté de voir comment les Grecs, donc la thèse de Nietzsche, c'est que les Grecs, ils ont inventé ça de manière très forte. Alors donc, l'Apollinien et le Dionysiaque, et c'est là où Nietzsche, même si c'est un philologue original et décalé et ancien, puisqu'il date du 19e, il est en rapport avec ce qu'on peut savoir de la civilisation grecque. Donc la question de Nietzsche, comment le Dionysiaque et l'Apollinien peuvent s'associer, on a la réponse du théâtre, sur laquelle je vais développer, mais on en a une autre. Donc dans la civilisation grecque, on connaît... le théâtre, mais on connaît la manière il y a une autre manière donc là, non, excusez-moi c'est dur hein. Donc le dionysiaque, on le retrouve dans le théâtre, je vais en parler, mais on le retrouve dans un autre domaine beaucoup plus mystérieux, qui sont les cultes orphiques, dont vous avez jamais entendu parler. Donc on trouve des temples dans tout le monde grec, à partir du VIe siècle avant Jésus-Christ, donc avant l'invention du théâtre. On verra que le théâtre est plus intéressant de ce point de vue-là. Se développent des pratiques religieuses dans des temples qui se réclament donc d'Orphée. Orphée, c'est un personnage dont je ne vous ai rien dit, c'est donc une sorte de divinité de la musique. Hein, tout le monde connaît les opéras Orphée et Eurydice de Gluck, et comme ils ont été moqués par Offenbach, Orphée, vous connaissez tous, « J'ai perdu mon Eurydice ». Donc ça c'est de Gluck, et ça a été mis en forme de manière comique par Offenbach. Donc Orphée, qu'est-ce qui a le lien? Donc Nietzsche n'en parle pas, c'est d'autres éléments que j'amène là. Orphée, c'est le dieu de la musique. Or la musique, elle est au cœur, pour Nietzsche, elle est déjà un mariage de l'apollinien et du dionysiaque, puisque la musique touche le corps directement. Vous voyez bien, la musique, c'est un exemple de rencontre entre les deux, mais du côté du dionysiaque, puisque la musique, elle vous émeut, les larmes vous viennent aux yeux, la poésie aussi, mais c'est autre chose. Et en même temps, la musique, elle obéit à des règles, des codes de rythme. C'est aussi des formes, des mises en forme de rythme et de codification écrite, même si chez les Grecs, ce n'était pas écrit comme la musique moderne. Donc, Orphée est l'occasion et l'antenne, l'entête de temple où se pratiquent des rencontres et des rites ésotériques dont on a extrêmement peu de traces. Donc les seules traces qu'on a, ce sont uniquement des traces archéologiques, c'est-à-dire qu'on trouve des petits morceaux de genre ex voto, je prends un exemple contemporain, des morceaux d'or ou de cuivre ou autre, où il y a des inscriptions mystérieuses. Et donc on a le corpus de textes sur le culte orphique est très très faible, on a très peu de choses, mais ce que l'on sait, les traces que l'on a montrent que le Dionysos, donc je n'essaie pas de deviner ce qui pouvait se passer dans ces temples, le film d'Anno, non, comment il s'appelle, qui se passe en Grèce, là, Louis-Jean Lacaneau, a tenté de retraduire ça, mais c'est une catastrophe, je crois. Je n'ai pas vu le film. C'est un film sur la Grèce ancienne, où il y a un porc, un personnage se transforme en porc, etc. Ça a été un fiasco total. Et bien, ça vise à rendre compte de ça. Oui, c'est récent. C'est bien Anno, non, c'est bien ça. Donc, dans les cultes orphiques, c'est des cultes qui sont développés énormément, donc ça joue un très grand rôle. Et dans ces cultes, la divinité centrale, c'est pas Orphée, c'est par la musique, c'est Dionysos. Donc c'est des cultes où on célèbre Dionysos, et donc là on a la certitude, même si on ne sait pas ce qui s'y passait, qu'il y a une tentative d'articuler le dionysiaque, c'est-à-dire la folie, l'alcool, c'est ça, la fête et tout ça, et la mise en forme rituelle, puisque la religion permet d'instaurer des rites. Les clubs sadomasochistes sont une lointaine réminiscence, sans doute, puisque... Non, je pense que... les clubs sadomasochistes, c'est déchaîner et maîtriser les passions. Il n'y a pas plus maîtrisé, puisque c'est même le contrat qui est passé entre les participants d'un club sadomasochiste, c'est ce contrat d'où tout le plaisir est tiré, à mon avis. Enfin, j'en sais rien, j'ai jamais pratiqué. Non, mais je regardais... Donc si ça vous intéresse, tout ça, je vous donne une référence, parce qu'évidemment, je n'ai pas été chercher ça directement moi, en fouillant. Donc l'auteur s'appelle Claude Calame, C-A-L-A-M-E. Donc Calame, C-A-L-A-M-E, et ça s'appelle Pratique poétique de la mémoire. C'est un livre très savant, hein, mais Pratique poétique de la mémoire, pratique poétique au pluriel, représentation de l'espace-temps en Grèce ancienne. Représentation de l'espace-temps en Grèce ancienne. Donc pratique poétique de la mémoire, représentation de l'espace-temps en Grèce ancienne, édition La Découverte, donc ça date de 2006, et l'éditeur c'est La Découverte, donc c'est un éditeur, ça veut dire que ça se lit quand même, c'est savant, sérieux, et ça se lit relativement facilement. Hein, c'est pas... Voilà, oui, quelqu'un normalement, il n'y a pas besoin d'être faire partie d'un club sadomasochiste pour souffrir sous l'érudition. Et... Voilà, donc là, c'est intéressant, il y a sûrement évidemment d'autres cas. En Grèce, sur le terrain religieux, il y a une tentative de lier ensemble Apollon et Dionysos à travers ces cultes orphiques, c'est le premier exemple. Alors, évidemment, l'exemple beaucoup mieux connu, puisqu'il nous reste des centaines, on sait qu'il y a eu des milliers de pièces, mais on en a gardé quand même pas mal, c'est évidemment l'expérience théâtrale, qui va être le deuxième grand moment, et c'est celui auquel s'intéresse Nietzsche. Donc, on peut définir l'invention du théâtre grec, c'est la rencontre et l'équilibre entre Dionysos et Apollon, entre l'Apollinien et le Dionysiaque. Alors, ce qu'il faut bien voir, et c'est là où il y a une petite difficulté, mais je n'irai pas plus loin dans cette difficulté, c'est que pour Nietzsche, le théâtre, c'est la rencontre entre Dionysos et Apollon. Les deux sont nécessaires, les deux sont aussi importants l'un que l'autre, et pourtant, le théâtre grec qui intéresse Nietzsche, il est placé sous le signe de Dionysos. Voilà, donc là, la petite difficulté théorique, c'est qu'il y a les deux qui sont égales, qui sont nécessaires l'une et l'autre, et il y en a une qui est plus égale que l'autre, c'est que le point de départ, c'est Dionysos. Donc on aurait un point de départ boiteux. Vous voyez, c'est un point de départ, mais qui évidemment n'est pas un vrai point de départ. Donc on retrouve ce qu'on a vu avec Hésiode, où on a vu que le chaos était premier, vous vous souvenez, mais Gaïa arrive tout de suite. Donc le chaos est premier, donc on sent bien que c'est deux choses égales dont l'une est plus importante que l'autre. Voilà. Donc le dispositif théâtral dont on a hérité, il faudra peut-être en discuter, moi je ne suis pas spécialiste du théâtre, le dispositif théâtral, il se fixe au cours de la première moitié du 5e siècle. Hein, les cultes orphiques, c'est le 6e, il y a un siècle à peu près d'écart. Et donc, on peut parler de dispositif théâtral. Un dispositif au sens de Foucault ou d'agencement théâtral, si on emploie le vocabulaire de Deleuze. Donc, je vous en rappelle rapidement, si vous le connaissez bien, vous me dites d'accélérer. Je vous en rappelle les éléments architecturaux. Ce sont des représentations à ciel ouvert dans un ensemble monumental. Donc le théâtre, c'est un monument à ciel ouvert. Et le théâtre, il se divise en trois parties, le théâtre grec. Vous avez l'amphithéâtre, donc si vous allez à... puisque les Romains hériteront de ça, si vous allez à Fourvière, vous verrez ça. Vous avez l'amphithéâtre avec les gradins pour les spectateurs. Donc c'est un demi-arc de cercle avec les gradins, qui montent très très haut, en hauteur, et qui contient beaucoup de monde. Donc le théâtre, c'est quelque chose de vaste. Donc le théâtre d'Athènes, qui va être le théâtre le plus prestigieux, le théâtre d'Athènes peut contenir 50 000 spectateurs. Donc c'est comme un terrain presque de foot, enfin je ne sais pas comment on pourrait dire, mais le théâtre s'adresse à un grand nombre. Et dans le théâtre, donc je vous rappelle du point de vue étymologique, théâtre, ça veut dire, le théâtre, l'étymologie du mot, c'est voir, c'est le regard. Hein. Donc théâtre, notre spécialiste de Grèce n'est pas là. Théaomai, donc c'est regarder. Deuxième élément du dispositif théâtral, en face, vous avez un grand mur, et en bas du mur, vous avez la scène. Donc la scène, c'est un espace surélevé, mais dans le théâtre antique tel qu'il apparaît, c'est un espace restreint. La scène, c'est un espace très limité. Et donc le plus important, c'est la troisième partie du théâtre, c'est la partie entre les gradins de l'amphithéâtre et la scène, et donc qui s'appelle en grec orchestra. Donc l'orchestra, c'est la partie entre la scène et les gradins. Donc le mot orchestre, il continue de fonctionner dans le théâtre moderne, puisque l'orchestre, on va parler de siège, le parterre. Le parterre, c'est les sièges d'orchestre. Hein, si vous êtes, la partie la plus chère où les gens viennent s'asseoir. Et l'orchestre, c'est à la fois les fauteuils d'orchestre, c'est aussi la fosse d'orchestre pour l'opéra. Donc c'est un vieux reste du théâtre grec. Alors le point de départ de la réflexion de Nietzsche, c'est justement dans le théâtre grec l'importance de la partie d'orchestre que lui pense, donc cette troisième partie entre les gradins et la scène, c'est un espace très vaste où il n'y a pas de siège, personne n'est assis, mais vous avez des musiciens, des danseurs, et vous avez des expressions corporelles, etc. Ce qui, dans le théâtre grec, va donner les chœurs. Les chœurs des premières pièces du théâtre grec, ce sont donc les chœurs qui occupent la partie d'orchestre. Donc ce qui intéresse Nietzsche, c'est qu'il pense, c'est pour ça qu'il a écrit ce livre au moment où il était en bon terme avec Wagner, c'est qu'il pense que Wagner est en train de rétablir le théâtre grec. Dans la mesure où sa thèse, donc je l'annonce dès maintenant, c'est de dire que la partie d'orchestre va diminuer de plus en plus au profit de la scène. C'est ça la thèse de Nietzsche dans son livre. Et c'est la fin du théâtre grec et de l'équilibre entre Dionysos et Apollon. C'est-à-dire que la partie musicale et la danse qu'occupait la plus grande partie du théâtre, tend à diminuer et à aboutir à notre situation actuelle où l'orchestre se limite à la fosse d'orchestre, une fente où s'entassent les musiciens. Donc ce que Nietzsche pense, c'est que Wagner, en écrivant la tétralogie, réinvente le théâtre grec avec une musique qui reprend le dessus, donc la musique wagnérienne qui reprendrait le dessus dans le théâtre et dans l'opéra wagnérien. Donc, pour la petite histoire, Nietzsche, il va déchanter, si je puis dire, très vite, puisqu'il va trouver que Wagner, c'est une tromperie, il ne rétablit pas du tout l'équilibre grec, mais au contraire, c'est une imposture et une boursouflure, donc il va identifier toute la culture allemande de l'époque à cette boursouflure et qui lui paraît complètement, alors l'expression la plus répugnante de cette tromperie et de cette wagnérienne, ça va être Parsifal, où il a l'impression, Nietzsche, que Wagner, en fait, soumet ce que les Grecs avaient inventé au judéo-christianisme en rétablissant des mythes judéo-chrétiens. Et donc à l'époque, au moment où il va publier la deuxième partie de Naissance de la tragédie, l'idéal musical de Nietzsche, dont je le signale, c'est Carmen de Bizet. Hein. Et donc pour lui, c'est cet opéra qui paraît secondaire quand on le compare à donc voilà, il faudrait évaluer le jugement de Nietzsche. Je ne porte pas de jugement, même si je m'intéresse à la musique. C'est-à-dire qu'il pense que la musique de Bizet, l'Espagne, le monde latin, rend compte de l'équilibre que lui souhaite entre le Dionysos et Apollon, et que Wagner, il n'est pas du côté du Dionysiaque, ni de l'Apollinien. Wagner, c'est une bouffonnerie. Voilà, je crois que le mot qui désignerait bien pour Nietzsche, dont je vous renvoie au petit livre de Nietzsche sur Wagner, qui s'appelle « Le cas Wagner » de 1888. Alors, à la défense de Wagner, on signale que Nietzsche est sur le point de devenir carrément fou. Mais le cas Wagner est très intéressant. Et d'ailleurs, Nietzsche, tous ses textes, jusqu'au dernier Ecce Homo, sont des textes passionnants. Donc, l'essentiel du spectacle dans le théâtre grec a lieu sur ce vaste domaine qui est celui de l'orchestre. La scène théâtrale, donc je suis Nietzsche là, la scène elle est étroite et elle sert, donc c'est la scène, hein, c'est une scène, elle sert à figurer l'action théâtrale avec des acteurs. Donc il y a des acteurs qui doublent le spectacle d'orchestre sur cette petite scène, et donc le nom des acteurs, notez-le bien, parce que ça a une importance étymologique, c'est les hypocritaï, hein, hypocrites, qui va donc donner le mot hypocrite. Notons bien ça, parce que ça a un intérêt. Et donc c'est intéressant de faire l'étymologie de ce mot. Pourquoi on a appelé les personnages qui étaient sur la scène les hypocrites? C'est que hypocrites désigne au départ, et ça c'est important, c'est celui qui donne une réponse, qui interprète un songe ou un événement. Le sens premier d'hypocrites, c'est celui qui met en mots une réalité qui n'est pas en mots. Donc là, on est de nouveau dans Dionysos et l'Apollinien. C'est-à-dire que la vie, c'est des fantasmes. Hein. Quand on rêve, un songe, ou les événements qui nous arrivent, ça nous affecte, on est affecté par un événement, et on est du côté du réel, là, vous êtes d'accord avec ça, on est du côté de la vie, au sens d'être affecté, c'est être dans la vie. Il y a quelque chose qui nous arrive, et on est submergé. Ça, c'est Dionysos désigne le réel, en fait, puisque le réel, il est anarchique. Hein, et donc, c'est ce qui nous arrive. Donc, on est submergé par les émotions, les affects, par la force de l'événement. Et si on se réveille le matin, on a fait un rêve, etc. Et donc, l'hypocrites, c'est la vieille invention de ce qui va être promis un immense avenir. Donc, vous avez la vie qui vous saisit, et puis arrive les cellules psychologiques, le psy, enfin, autrefois c'était les prêtres, mais en quoi ça consiste? Mettre en mots les émotions et les affects. Donc c'est mettre en mots. On est au cœur de notre problème, là, que Nietzsche, sur lequel est l'anarchisme. C'est, à force de trop mettre en mots, ce qui est de l'ordre de la vie, devient rien du tout. On dit, ah, c'était que ça. PCF. Vous voyez. Donc là, le problème, et c'est ce que Nietzsche va montrer, c'est on retrouve l'ambiguïté du langage. Donc le problème du langage qui est au cœur du théâtre et tout ça. Certes, le langage, c'est à la fois, je vous rappelle la définition dans la culture arabe, c'est à la fois le mal et le remède. Les mots, c'est le remède, parce que vous avez vécu un événement tragique, arrivé à le dire. Hein, peut-être qu'il faut pleurer ou d'autres, il y a d'autres moyens d'expression, et c'est là où on trouve le théâtre grec, faire de la musique, enfin, vous lancez dans un truc. Mais les mots, ils peuvent permettre de dire ce qui a été vécu et ce qui a été ressenti. Et en même temps, les mots, il va trahir ce qui a été vécu et ce qui a été ressenti, et il va éventuellement le refouler en disant allez oublier tout ça. Je continue sur l'étymologie du mot, où on retrouve un problème qu'on a déjà vu, c'est l'origine plus diverse ou plus ancienne, c'est hypocrino qui veut dire séparer en grec. Donc séparer, c'est-à-dire distinguer les choses. Donc on retrouve ce qu'on a dit sur la distinction, on l'avait vu il y a 15 jours, c'est-à-dire qu'en même temps, séparer c'est mettre de l'ordre. C'est ranger les choses. Donc on va dire, serrions les problèmes. Donc si votre enfant vient vous voir et qu'il est sous coup d'une très forte émotion, vous lui dites, attends, assis-toi, calme-toi, et on va regarder les choses l'une après l'autre. Voilà, vous voyez, ça renvoie à une expérience comme ça. Or, séparer, en séparant, donc on est dans le langage toujours, mais un peu en dehors, en séparant, on trahit forcément. Parce que parce que justement, un événement, par définition, il condense plein de choses qui sont contradictoires, et on est dans Proudhon, là, puisque la contradiction, elle est nécessaire. Mais généralement, quand on se met à distinguer, justement, on élimine les contradictions. Enfin, on dit, ça peut pas être ça, c'est ça, ben, parlons d'abord de ça, on parlera de ça après. Donc, si votre enfant vous dit, mais non, mais ça va ensemble, on dit, ben, il faut bien prendre par un bout, enfin, il y a toutes les... Troisième sens étymologique, donc, qui va donner le mot hypocrite dans notre langue à nous, hypocrino. Et alors c'est intéressant que le même mot dise oh, « je distingue, je sépare », le même mot, il signifie « feindre et contrefaire ». Voilà, ça c'est passionnant dans la langue grecque. Donc « feindre et contrefaire », quand on sépare et qu'on distingue, on contrefait. Voilà, on contrefait et du coup on peut même feindre parce qu'on va sélectionner tel aspect dans l'événement pour dire c'est ça qui est important, par exemple. On va dire, ben ça non, c'est secondaire, laisse-le de côté. Alors qu'en fait, pour l'enfant, si je reprends mon exemple, c'est ce point secondaire qui est peut-être le nœud. Mais si on parle en termes de nœud, le nœud, par définition, le nœud gordien, par définition, il ne peut pas se défaire parce qu'il tient à la vie. Enfin, voilà. Donc, je laisse de côté la solution d'Alexandre, qui est de détruire Alexandre. Donc, on retrouve de nouveau la capacité des mots à mentir et à travestir la réalité, à la mettre en forme, hein, des formes acceptables. Dans toutes les histoires de famille, ce sont des histoires de mise en forme d'une réalité dont on n'arrive pas à rendre compte, sauf dans les tragédies grecques, au reste, qui tue sa mère et tout ça. Et dans la tragédie, justement, on voit bien qu'on touche là l'utilité. Donc, la capacité des mots à mentir, à travestir la réalité et à assujettir la réalité à ces distinctions grossières. Donc on met de l'ordre dans la classe, on classe la réalité. Donc les acteurs de théâtre, du théâtre grec, participent par les mots qui servent à les désigner à ce travestissement. Et donc je reprends la notion que Badiou avait donnée quand il parle de Lyotard, de capture. Donc les comédiens participent à capturer le réel par ce qu'ils disent, par les mots qu'ils emploient. Ça va, c'est à peu près clair, là? Alors simplement, ce qui est intéressant dans le théâtre grec, c'est que ce travestissement de la réalité par les mots, et on verra ce que devient le théâtre grec, ce travestissement de la réalité par les mots, le spectacle le dénonce en même temps qu'il le montre. C'est-à-dire que le spectacle grec, du théâtre grec, est très conscient, il met en mots avec les acteurs, mais en même temps, il montre comment les acteurs sont une caricature et en quoi ils mentent. Au moment où ils disent, donc on retrouve le mal et le remède, à la fois ils disent quelque chose et ils mentent en le disant, et le théâtre grec permet de le voir, ça. Donc le spectacle, le théâtre grec, pour Nietzsche, maîtrise le travestissement, il maîtrise l'apollinien et le dionysiaque, sans arrêt, il y a un rapport entre les deux, il montre et il cache, et donc j'ai pensé, mais moi je n'y connais rien en théâtre, ça a sans doute à voir avec Brecht, et avec la distanciation dans le théâtre, qui est-ce qui connaît bien le théâtre de Brecht? Donc je me tourne vers les profs de... C'est-à-dire qu'il me semble avoir compris que dans Brecht, il y a dans Mahagoni ou l'opéra de Katsu, il y a la volonté de mettre en scène des personnages dont on voit que c'est des personnages de caricature. Enfin, la notion de distanciation, il me semble que c'est une notion... Alors, comment opère le théâtre grec? Comment il opère pour permettre de maîtriser, de neutraliser le pouvoir des acteurs? Ce serait un peu comme, je fais une petite parenthèse, c'est exactement ce que Clastre montre sur les chefs indiens. Hein, le chef indien, il est investi d'un pouvoir symbolique très grand dans la tribu, mais en même temps, le fonctionnement de son pouvoir symbolique dément sans arrêt ce pouvoir. C'est-à-dire que le chef indien, donc par exemple, l'exemple des tribus est analysé par classe, le chef indien, il faut qu'il fasse des discours sans arrêt et personne ne l'écoute. Il faut surtout ne pas faire avoir l'air de l'écouter. Celui, il se ferait moquer de lui, si, ou l'autre chef indien qui fabrique des arcs pour les chasseurs sans arrêt. Et donc le chef indien, c'est une charge sur lui où la fonction de pouvoir est sans arrêt contrebalancée par le côté... Donc j'ai parlé des exemples des syndicats de la métallurgie sur lesquels j'ai travaillé. Le secrétaire du syndicat de la métallurgie, c'est une vie de bagnard. Hein. Enfin, il y a un peu à l'université, les directeurs de département, c'est un peu comme ça aussi. C'est-à-dire que c'est un boulot où on se fait qu'engueuler. Parce que tout le monde... Et donc je vous conseille un livre qui vient de paraître sur les Indiens d'Amérique du Nord. C'est un ethnologue anglais, américain, qui s'appelle White. J'ai oublié le titre, je n'ai pas les noms d'éditeurs, zut, j'aurais dû vous le donner. C'est sur les rapports, la manière dont les Français du Canada sont obligés de négocier. White, c'est le nom de famille, et c'est les Indiens des Grands Lacs, c'est vers Richard White. Vous l'avez lu, tu l'as lu, non? Il est venu, c'est vrai. Eh bien, Richard White, il décrit très bien, on a un exemple extraordinaire, l'Empire français avec le roi de France, avec son gouverneur qui débarque, et les Français sont obligés de négocier avec les Indiens. Et là, c'est les Indiens un peu comme classe. Donc là, on a des documents en masse, les Indiens, ils passent leur temps pour prendre la moindre décision. Les anarchistes à côté, c'est presque des rapides. C'est-à-dire que les décisions chez les Indiens, ça prend un temps fou, sans arrêt, il y a de nouveaux événements qui arrivent. Les chefs, on ne sait jamais, les autorités françaises croient avoir des chefs, c'est vraiment des chefs d'ailleurs, mais ils disent les chefs, vous venez avec nous, on va taper sur les Anglais, les chefs disent, vous croyez, alors mes chefs, justement, vous croyez qu'ils vont nous obéir, mais c'est impossible, donc de temps en temps, les chefs, et ça rappelle, il y a comme ça historiquement, une série d'expériences, si vous prenez, je vous en avais parlé il y a si vous prenez Makhno en Ukraine, l'armée insurrectionnelle anarchiste ukrainienne, c'est pareil. Il y a des jours, les paysans ils vont faire les foins et Makhno, ils se retrouvent, ils sont plus qu'une centaine, sans souci de la stratégie. Et on retrouve ça dans des secteurs complètement différents, puisque la grande armée catholique et royale des Vendéens fonctionne de la même manière. Ils ont une victoire, ils prennent une petite ville. Les chefs sont très contents, ils disent demain, ils ont des cartes, les chefs, ils prévoient les plans, etc. Le lendemain, il n'y a plus personne, ils sont tous rentrés chez eux. Les tribus indiennes fonctionnent un peu comme ça. White, comme White Spirit. Et le titre, oui, c'est un gros livre qui ne répond pas tout à fait à cette promesse de départ, mais qui est quand même passionnant. Alors on plonge dans un monde, sur le Canada, les rapports avec les Indiens, et ça, c'est un livre extraordinaire. Vraiment. Alors, dans le théâtre grec, comment ils pratiquent ? Eh bien, d'abord, il y a des signes visibles, donc il y a des survivances de ce théâtre, les signes visibles et distinctifs, qui dénonce le côté trompeur ou caricatural des comédiens sur la scène. Donc les comédiens, ils sont affublés de signes qui les épinglent et qui empêchent que ce soit une parole qui prétende dire la réalité des choses. Donc ils ont des grandes robes, enfin vous connaissez tout ça, ils ont des cothurnes, donc des chaussures surélevées, et surtout ils ont des masques qui leur agrandissent le visage. Ça sert de porte-voix, mais les masques... sont le signe le plus clair du paradoxe du spectacle, c'est que les masques ne dissimulent pas, ils révèlent. C'est-à-dire que les masques ne dissimulent pas ce que sont les acteurs, mais ils les mettent en scène comme les clowns, comme les personnages. À mon avis, les clowns, c'est une survivance de ça. Donc, les masques révèlent ce que sont les acteurs et qui ne sont que ça. Donc, en leur assignant une identité, celle d'un personnage ou d'un type plus ou moins simplifié, donc le rire, la tristesse, Donc c'est aussi des types, hein. Ce n'est pas des personnages conceptuels, mais on retrouve la notion de type qu'on avait donnée, qui disent des choses essentielles. C'est quoi on sait tous ce que ça veut dire quand on voit un masque aller dans un théâtre, vous retrouverez ça. Et du coup, deuxième élément, c'est que ça montre le simplisme et le côté mensonger de ces identités qui donnent un visage, mais sous la forme de caricature. Donc ça, c'est la mise en scène caricaturale d'un drame qui se joue où ? Ailleurs, à l'orchestre, là où il y a les musiciens, les danseurs, etc. Et les chœurs qui disent des grands poèmes. Donc les comédiens, ils jouent un rôle, et on sait que ce sont des comédiens. Donc là, on trouve quelque chose qui a dû survivre dans le théâtre, c'est que le comédien, ça permet de dire quelque chose sans qu'on les prenne au sérieux, contrairement aux hommes politiques. C'est après coup qu'on découvre que Mussolini, vous voyez bien que Mussolini, vous avez vu en film, Mussolini c'est un clown extraordinaire. Là, quand il parle, sauf qu'à l'époque, c'est ça qui est embêtant, c'est quand les spectateurs se mettent à coller au personnage. Donc, dernière remarque, c'est donc l'orchestre et les chœurs qui, à l'aide d'une multitude de ressources, qui impliquent le corps, le son, la musique, etc., les cris, eh bien le chœur il est chargé de dire le réel, de dire le chaos et l'anarchie du réel. Donc il est chargé de dire, d'exprimer les forces de la nature. Et donc, derrière, entre les forces de la nature et le théâtre, eh bien, vous avez ce monde imaginaire des dieux grecs, des milliers de dieux, aussi bizarres les uns que les autres, qui surgissent et qui donnent corps et réalité donc, aux passions du monde et de l'humain. Donc le théâtre, il va mobiliser une série de ressources capables de rendre compte de l'expérience humaine comme une expérience prise dans le monde, prise dans le réel, et donc le réel où les forces de l'enfer, etc., je les porte en moi-même et elles s'expriment à travers les divinités et autres, et à travers le corps et le... Donc ce dispositif théâtral, il va s'imposer dans tout le bassin méditerranéen, mais en connaissant une mutation que Nietzsche croit déceler, sur laquelle je reviendrai. Alors ce qui est intéressant dans sa naissance, c'est que cette forme théâtrale, elle est directement liée à Dionysos et aux fêtes qui accompagnent son culte et sa célébration. Donc l'ancêtre du théâtre, des théâtres en pierre d'Athènes et des villes grecques, c'est des constructions provisoires en bois qui étaient consacrées à des cultes pour Dionysos et donc des fêtes collectives qui avaient lieu. Là, je ne suis pas dans le rite orphique qui est très élaboré. Donc, dans les villages grecs, vous aviez des établissements en bois où on venait faire la fête, où on venait boire, danser, faire de la musique et s'amuser. Donc le grand théâtre d'Athènes qui va être construit au 5e siècle, il va s'appeler, c'est le théâtre de Dionysos. Donc il y a un héritage direct, un lien direct entre Dionysos et l'invention du théâtre. Ça va plus loin encore. Dans la partie d'orchestre que j'ai décrit, il y a un petit autel qui va servir dans les pièces, d'ailleurs, comme décor, un petit autel, y compris des fois avec des prêtres qui sont présents, un petit autel consacré à Dionysos. Donc Dionysos est vraiment au centre du théâtre. Voilà la première chose qu'on peut dire. Alors, le problème le plus intéressant, c'est que la thèse de Nietzsche, et qui se vérifie par ce dispositif théâtral, c'est qu'Apollon est présent, est complètement présent dans cette mise en scène, cette invention du théâtre grec. Donc Apollon, il est présent où ? Il est présent dans le dispositif, et il est présent dans une certitude des Grecs, à mon avis, enfin la queue qui pouvait y croire, mais quand on croit quelque chose, c'est toujours à propos de soi. C'est-à-dire que la certitude des Grecs, c'est que eux, ils ont tout Dionysos, mais ils le maîtrisent par le théâtre, par la forme et par les codes et par Apollon. Donc le théâtre, c'est une manière de rendre présent, comme le feu, on le met dans un foyer pour pas que la maison brûle, hein, ça serait ça. Le théâtre, c'est la cheminée de la maison. C'est que le feu que les barbares, eux, répandent n'importe comment, parce que les Grecs, ils pensent que les barbares, c'est vraiment des barbares, comme les Français au Canada croient que les Indiens sont vraiment des sauvages, un peu bizarre, mais bon. Et donc, la barbarie qui s'exprime de manière folle, les Grecs la capturent et sont capables de la capturer sans la tuer, sans la faire disparaître. Alors, je vais essayer de répondre à ce point-là, et après, on verra ce qu'on peut encore dire sur le théâtre grec. Donc, le paradoxe, il y a un paradoxe, c'est le dionysiaque est très présent dans le théâtre grec. Il l'emporte, l'apollinien fixe le cadre par le dispositif, mais ce que vise le théâtre grec, d'après Nietzsche, au moins au début, c'est le dionysiaque, c'est d'être capable de dire le caractère sauvage et anarchique du réel, et avec tout ce qui peut arriver, et ce à quoi les spectateurs sont invités. Donc le paradoxe, c'est de comprendre comment, pourquoi le dionysiaque peut être mis en avant en affirmant en même temps qu'il ne peut pas exister sans l'apollinien. Comment expliquer le lien entre les deux? Comment expliquer que le théâtre insiste sur le dionysiaque tout en disant que le dionysiaque ne peut pas être distingué de l'apollinien, ne peut pas échapper à une mise en forme, et qu'il s'agit d'inventer une mise en forme qui respecte la folie du dionysiaque. Donc la réponse que je vais donner à ce problème, mais je n'insisterai pas là-dessus, c'est une réponse que l'on peut trouver de nouveau chez Proudhon dans la dialectique proudhonienne, et à travers le concept proudhonien d'équilibre des forces. Donc la thèse de Proudhon, que l'analyse de Nietzsche illustre bien, c'est la nécessité de forces contradictoires qui s'équilibrent. Dans la mesure où cet équilibre, c'est une tension, puisque c'est des forces contradictoires, donc c'est une tension entre deux forces contraires, et c'est dans cette tension que naissent des résultants plus fortes et que naît la vie. La vie naît, c'est la théorie de Proudhon, qu'on soit d'accord ou pas, c'est en gros cette... Et donc, pour comprendre le théâtre grec, ça permet de comprendre Proudhon, l'équilibre implique, alors là, mais là je crois que je me perds, mais c'est pas grave, l'équilibre implique le déséquilibre. L'équilibre, c'est toujours un déséquilibre compensé. C'est comme quand on marche. Et donc, dans la thèse de Proudhon, l'équilibre passe sans arrêt par je penche à gauche pour rétablir le... D'où ? Voilà. Comment ? Des déséquilibres successifs. Alors, ou alors si vous êtes... donc vous aurez la marche à pied qui vous projette en avant, mais vous pouvez être en face de quelqu'un et vous balancer. Oui, enfin, j'invente des... ça peut être du surplace, hein. Ça peut être un équilibre. Oui. Oui, s'il atteint l'équilibre, il est mort. Voilà, oui, mais ça, c'est la thèse proudhonienne, hein, complètement. Mais qui est sociale, non, Proudhon. Donc, c'est un déséquilibre compensé. Donc, et qui se monnaie par une série de petits déséquilibres. Donc, c'est une maison faite de. La vie, c'est ça, c'est sans arrêt des petits rapports. Bon, je ne développe pas plus. Donc, j'avance. Donc, cette idée, ce point d'équilibre, parce que justement, on va voir que ça va se déséquilibrer, le théâtre grec va se déséquilibrer, il faudrait parler du théâtre actuel. Donc ce point d'équilibre, Nietzsche le situe à un moment très court, ça dure une cinquantaine d'années. En gros, mais je vais vous en parler la prochaine fois, c'est Eschyle et Sophocle. Euripide, c'est déjà terminé, donc ça dure une période très courte, et donc on peut se dire que cette période très courte, elle invalide, enfin ou du moins elle relativise cette expérience d'équilibre entre l'anarchie et l'ordre, entre la mesure et la démesure. Alors ce que je voudrais dire maintenant, c'est de voir en quoi le modèle grec du théâtre, il permet de penser toutes les situations, puisque ça pourrait permettre de penser la biologie, ça pourrait permettre de penser des choses minuscules, et donc je voudrais rapidement vous présenter des cas analogues qui justement donnent de l'importance à ce que le médecin Nietzsche a repéré dans un moment très court de l'histoire grecque. Donc je voudrais vous présenter quatre expériences humaines, quatre moments de la vie humaine où on retrouve cet équilibre, déséquilibre et cette affirmation du dionysiaque dans l'apollinien. Donc premier exemple. Eh bien, c'est le plus clair, c'est les périodes révolutionnaires. Les périodes révolutionnaires sont typiquement des périodes où tout devient possible, qui sont placées sous le signe du désordre. Tout devient possible, le meilleur comme le pire. Dans une période révolutionnaire, c'est l'anarchie dans tous les sens du terme, et on ne sait pas ce qui va se passer, et généralement la période révolutionnaire, elle se termine par un retour à l'équilibre en allant d'une extrême à l'autre, puisque la période révolutionnaire, qui est la période de désordre le plus extrême, ça dure un jour, deux jours, trois jours, c'est généralement solutionné par un rétablissement de l'ordre brutal et d'autant plus féroce que l'anarchie a été la plus importante. Donc, comme on dit, mais le langage courant, là, il est précieux, on passe d'une extrême à l'autre. Donc, vous voyez bien que le passage d'une extrême à l'autre, c'est ce problème de rétablissement d'équilibre et d'oscillation. Quand on marche, je vais à droite, je vais à gauche, etc., et je finis par essayer d'aller tout droit. Donc, la question qui est posée dans ce premier exemple, c'est comment maîtriser l'oscillation entre des pôles extrêmes. Et donc je vous rappelle la solution, puisque la solution anarchiste par rapport à ça, ça sera non pas de passer d'une extrême à l'autre, mais c'est en gros comment organiser l'équilibre des forces, le désordre. C'est-à-dire comment, et c'est ça le projet proudhonien, c'est comment organiser les forces, serrer les forces, dit Proudhon, et dans un faisceau d'autonomie, dans le langage de Proudhon, c'est-à-dire comment trouver un équilibre capable de maîtriser le désordre. Donc la révolution libertaire, dans ce premier exemple, c'est des forces multiples et contradictoires, des forces multiples et contradictoires qui sont habituées à s'associer et à constituer déjà une réponse. C'est pas clair là ? Non ? Si, si. Donc, à constituer des mouvements plus vastes. Donc, il y a une espèce d'expérience des contradictions où je m'associe à d'autres qui sont différents de moi, et en m'associant à d'autres qui sont différents de moi, je fais l'expérience d'un monde qui libère, qui au lieu de maintenir un ordre qui s'impose à toutes les manières de vivre, libère le maximum de forces de vie, puisque les forces de vie, c'est l'équilibre et la différence. C'était mon premier exemple. On y reviendra dans la discussion, si vous voulez, mais je sens que je l'explique mal. Mais Deuxième exemple, je serai plus rapide. Eh bien, ce qui est vraiment une survivance de, ancienne et qui remonte de la Grèce, c'est la fête et le carnaval. Alors, les carnavals sont typiquement des exemples d'excès maîtrisé. Donc, on retrouve l'exemple de la Grèce. Et donc, là, je vais aller voir le film Carnaval, qui est vraiment un film très, très... Vous l'avez vu, non? Donc, le film de Carnaval décrit bien ça. Donc, on voit bien comment les excès sont maîtrisés au niveau de la ville, du couple, des cercles d'amis, du mot de quartier, etc. Donc là, il y aurait une petite chose à creuser sur la notion d'excès, hein, l'excès dans le carnaval. L'excès qui renvoie du côté du peuple, là, pour le coup. Ça va, c'est clair, ce deuxième exemple ? Troisième exemple. Oui, ce que je voulais dire sur excès, c'est qu'en fait, on voit bien que là, dans le carnaval, l'intérêt, comme dans la Révolution, enfin dans les expériences révolutionnaires, on voit bien on retrouve la barbarie de l'intérieur. L'excès, il vient du peuple. Hein, le peuple, il est excessif dans ses sentiments. Le peuple, il est facilement hors de soi. Et donc, vous avez tout un vocabulaire où vous trouvez extérieur, extrémisme, excessif, excentrique, extravagant. Chaque fois que vous trouvez ce vocabulaire, vous êtes à la frontière de ces forces dionysiaques qui font qu'une société bien organisée, il y a toujours, ça fuit toujours, ou ça explose, ou ça... par un bout, et là, du côté populaire, donc le carnaval, dans son histoire, c'est bien une survivance de ce trop-plein qui ne peut pas être mis en forme dans l'ordre de la société telle qu'elle est à un moment donné. Mes deux derniers exemples, mais je voudrais surtout dire quelques mots sur le quatrième, relève du théâtre où on retrouve un rapport de nouveau avec le monde grec. Donc le premier exemple théâtral, donc mon troisième exemple, c'est la période de Weimar de la République allemande au lendemain de la guerre de 14-18, avant que le nazisme impose son mouvement de balancier autre, qui est tout aussi anarchique et dionysiaque, enfin il y aurait beaucoup à dire sur le nazisme, mais qui est du côté de l'ordre de l'ordre. Donc je vous rappelle, tout le monde voit la période de Weimar, c'est une période d'ébullition sur le terrain musical, de la peinture, etc., avec l'expressionnisme, en cinéma, le cinéma et autres. Et sur les mœurs, sur l'homosexualité mise en scène dans les cabarets, etc. Et donc, cette exubérance, dont on va dire quelques mots, elle va être canalisée du côté du nazisme et des défilés nazis, et tout le monde va être en uniforme, hein, voilà. Alors que la période de Weimar, c'est l'inverse Alors, si on rapproche avec le carnaval populaire avant la République de Weimar, vous voyez bien que tout est très compliqué dans ces rapports de force. Donc on voit bien comment le nazisme a une assise populaire. Le nazisme, il va dénoncer cette période comme une période de décadence. Hein, tout le monde voit bien, une période de décadence où il fallait bien remettre de l'ordre. Tous ces hommes qui se déguisaient en femmes et qui faisaient les folles dans les rues de Berlin, c'était quand même insupportable, même si les nazis les SA et autres faisaient pareil. Il y a une tradition allemande aussi qui est de buveurs de bière bavarois déguisés en femmes. Donc on aura l'impression, on pourrait avoir l'impression, par exemple, que la République de Weimar, c'est les classes supérieures qui sont dégénérées, qui font n'importe quoi, hein, les classes moyennes, je sais pas, qui transgenres et compagnie. Et que le peuple considère ça très mal parce qu'il est pour le réalisme socialiste, la peinture populaire russe ou allemande ou anard espagnole, c'est un peu la même en gros, hein, c'est une mise en forme. Il y aurait beaucoup à dire sur la question de l'art. Donc on peut penser que la République de Weimar, elle va choquer les valeurs populaires de la même manière que les cadres moyens qui ont fait la République de Weimar devait plus ou moins être scandalisé, enfin voir ça de loin, quand le peuple se met à faire du carnaval et à, et à boire trop. Donc on peut penser qu'il y a un rapport de classe qui est indiscutable. Donc dans l'analyse que moi je développe, c'est bien plus compliqué, et donc je vous renvoie au film Carnaval, où qu'il y a un intérêt immense de ce côté-là, c'est quand vous voyez la manière dont les prolos du Nord se déguisent en femmes, avec leurs petites ombrelles, et se baladent dans les rues de Dunkerque, ou je ne sais pas où, quelle est la ville de Carnaval, vous voyez bien qu'entre la République de Weimar et le Carnaval du Nord de la France, on retrouve évidemment la même chose. Donc les rapports sont évidents entre les deux. Dernier exemple, et comme ça vient de paraître à la Pléiade, je vais faire de la réclame. Le quatrième exemple, c'est donc la Pléiade vient de publier le théâtre élisabétain, hein, donc une période extraordinaire, qu'est le théâtre anglais du XVIIe, la fin du XVIe et le début du XVIIe. Donc je vous rappelle, le théâtre élisabétain, c'est, il y a Shakespeare, mais Shakespeare masque plusieurs centaines d'auteurs et des milliers de pièces, hein, sur une période très courte. Donc ça commence avec Élisabeth Ier, donc c'est à la fin du XVIe. Après vous avez Jacques I, je dis les noms exprès, Élisabeth I, Jacques I, Charles Ier, et la reine qui était avant c'était Marie Ière. Donc c'est intéressant parce que dans cette période, on voit bien comment c'est un hasard que ce soit des noms qui apparaissent pour la première fois, et c'est un hasard qu'il y ait deux femmes sur quatre noms. Hein. Mais ce n'est pas un hasard complet, parce que dans l'imaginaire, on voit bien comment c'est une période où tout recommence sans cesse. Les noms des rois, les dynasties, donc je vous rappelle l'histoire anglaise, les Lancastres, les York, les Tudors qui s'entretuent à qui mieux pour c'est moi le premier et c'est moi qui arrive. Et donc c'est ce que Shakespeare va mettre en scène. Et donc les femmes, et le fait que ce soit des femmes, c'est pas non plus complètement un hasard du point de vue de l'imaginaire, plus que du symbolique d'ailleurs, puisque les femmes, c'est bien là que tout recommence sans arrêt avec les bébés. Hein, donc la phrase célèbre d'Anna Arendt, un enfant, 12 aînés, qui fait que ça recommence toujours. Et la fête du carnaval, c'est bien de toujours recommencer, remettre au pot. Enfin, c'est ce que font les Indiens quand ils brûlent leur maison dans les potlatches ou autres. Il faut toujours repartir à zéro et dépenser. Donc, la Pléiade a publié le théâtre élisabéthain. C'est un choix de texte. Donc, il y a 30 pièces, hein, sur un grand nombre, mais avec une vingtaine d'auteurs différents. Lisez l'introduction, elle est vraiment intéressante. Donc je vous donne quelques titres des pièces élisabéthaines. John Ford, pas le cinéaste, mais c'est dommage qu'elle soit une putain. Donc c'est une des grandes pièces. L'enragé de Thomas Dekker et Thomas Middleton. Le démon blanc de Job, il y a beaucoup de femmes diaboliques, hein, mais c'est normal. Le démon blanc de John Webster, la sorcière d'Edmonton de Thomas Dekker, ils sont mis à trois pour la faire, et surtout, donc je vous donnerai peut-être quelques petites citations, le théâtre, on connaît Shakespeare, donc je pense que vous avez tous eu l'expérience de lire Shakespeare, ou d'écouter du Shakespeare en anglais, une marée verbale qui est, quand on voit, quand c'est. Et donc c'est les pièces de Marlowe qui sont traduites, donc Christopher Marlowe, 1563-1593, donc les pièces les plus célèbres, c'est Le Juif de Malte, Le Docteur Faust, Le Massacre de Paris, donc c'est qu'il a mis en scène. Et donc vous voyez bien que le modèle élisabétain, le théâtre élisabétain, il s'oppose directement au théâtre français de la même époque. En face, vous avez le théâtre classique, Racine, Corneille. Donc le théâtre classique français donnera les Lumières, hein, c'est lié au mouvement des Lumières. Le théâtre anglais, c'est l'obscurité. Hein, et là on est, donc vous avez deux thèses, une thèse qui va dire la lumière doit percer l'obscurité et vaincre les ténèbres. Tout le monde est d'accord là-dessus. C'est l'apollinien. Hein, la lumière, les formes, on doit les intégrer. Votre enfant vient vous voir, vous allez éclairer tout ce qui s'est passé, il dira, mais bien sûr, bon sang, j'aurais dû y penser plus tôt. Pourquoi pleurer pour des conneries pareilles, tout ça. Le schéma opposé, c'est le schéma de Leibniz, et donc du côté plutôt anarchisant ou anarchiste, c'est de dire que la lumière, elle sort de l'obscurité. Et donc le théâtre élisabétain, alors je vais avoir l'air de taper sur le théâtre français, mais ce n'est pas le cas. Le théâtre élisabétain, c'est justement comment faire jaillir de l'obscurité, des mots, des sentiments, de la violence de la vie, faire jaillir une parole qui exprime cette violence au lieu de la recouvrir et de la mettre en forme et de la démonter. Donc comment inventer un langage, et c'est ce que les introductions montrent très bien, comment inventer un langage qui dise la réalité de la vie. Voilà, ce serait ça le problème. Et donc, comme il y a une tension, le langage, il est forcément fini, puisqu'on a déjà vu ça, il est du côté apollinien. Donc comment le langage, comment le fini peut exprimer l'infini? On retrouve notre problème de l'art, mais aussi de ceux qui, les Espagnols, qui ont essayé de faire la révolution. C'est ça, c'est comment, à partir d'une situation misérable, où il y en a qui ne savent pas lire, où c'est la guerre civile, l'armée, il y a tout ça, et bien on essaye, quoi. Donc la formule « monter à l'assaut du ciel », en fait, c'est comment faire sortir l'enfer et le transformer en lumière, voilà. Comment passer de l'obscurité à la lumière. Donc ça, c'est la formule de ça serait du côté de Leibniz, et donc je vous rappelle la formule d'Anna Arendt, où Anna Arendt, elle reprend Heidegger. Anna Arendt, dans sa formule, elle dit l'inverse de tout ce qu'elle affirme par ailleurs. Mais bon, ça c'est une autre question. Elle dit la lumière de la scène publique obscurcit tout. C'est-à-dire que la lumière obscurcit tout. Le monde le sait bien, quand vous voulez faire la lumière dans quelque chose, il n'y a plus rien après. Alors ce qui est intéressant, ça serait de réfléchir sur quoi se détache cette invention théâtrale. Donc les Grecs, on voit à peu près, mais pourquoi au même moment en Angleterre, en France, les choses ne se passent pas de la même manière? Donc on peut faire des hypothèses. Hein, pourquoi le théâtre français, ça va être l'art classique, où tout est dans la forme, tout est la maîtrise de la forme, et donc une tirade gigantesque de Shakespeare ou de Marlowe, où à la fin on sort, on dit on va se coucher parce que c'est un déluge verbal extraordinaire. Je citerai l'introduction. Donc ce qui se passe dans le théâtre anglais, ça va prendre une forme incroyable, et on est entraîné, c'est les mots qui se répètent le réel par certains côtés. Du côté français, ça sera va, je ne te hais point, c'est-à-dire qu'une seule et le guerrier Louis XIVien reste immobile, en catatonie certes, mais une catatonie où la forme, il lève un petit œil comme ça, et tout de suite le monde s'écroule et tout ça. Alors que donc on est dans deux mondes différents. Alors l'hypothèse qu'on peut faire, c'est que la France, c'est vraiment une monarchie absolue qui est en train de se constituer, et qui se constitue sur un fond qui sont les guerres de religion, qui est vraiment un fond terrible, qui est un fond d'une violence inouïe, qui font que de nouveau on a un passage d'un extrême à l'autre. La monarchie absolue, elle va bénéficier de ce fond. Les Français, ils sont purgés ils sont écrasés par le réel des guerres de religion qui ont été terribles. Et donc on est bien, le théâtre français, on peut faire l'hypothèse que il est bien dans une logique impériale dont j'ai parlé au début. Donc des grandes sociétés impériales, où à ce moment-là, il est soumis à la norme. Simplement, ce qu'il faut ajouter, c'est là la difficulté, c'est que même la forme la plus raffinée, la plus maîtrisée, elle est porteuse du chaos, comme, voilà, c'est pas la même solution, mais elle est porteuse du chaos. C'est ça qui est dur à comprendre, c'est que le guerrier en catatonie, il est immobile, avec je prends un guerrier indien, vous voyez, avec des plumes partout, des peintures, enfin, il est extraordinaire, c'est une statue, et en fait, il y a une violence inouïe, parce qu'il concentre dans une expression corporelle la totalité de... Alors que l'exemple, l'Angleterre, c'est très différent. L'Angleterre, elle va connaître les troubles, mais après, ou en même temps. Donc, le théâtre élisabétain, apparaît à un moment où l'Angleterre sort d'un monde rural très pauvre, etc. Et ce monde, le monde anglais, brusquement, en 100 ans, 60 ans, va inventer les villes et va devenir international. Donc va le commerce, les ports urbains vont se développer. Donc le théâtre anglais, c'est vraiment une production de la ville dans une période une période anarchique, mais d'expansion. Enfin, où il n'y a pas eu de douleur, de violence. Et donc, simplement, ça finira mal, comme vous le savez, puisque le théâtre anglais, donc, avec l'arrivée des piétistes, donc les piétistes, je ne veux pas m'en prendre à la religion, hein, mais les piétistes anglais, c'est vraiment les intégristes religieux. Les islamistes n'ont rien inventé de ce côté-là. Donc l'arrivée de Cromwell, la prise de pouvoir par les puritains en Angleterre va se traduire par tous les cabarets sont fermés, tous les théâtres sont brûlés, détruits, etc. Et donc ça va être une période qui va se terminer. Alors pour vous donner envie de... De lire donc cette publication, la récente. Donc ce qu'ils expliquent, c'est comment Marlowe, alors ils s'appuient surtout sur l'exemple de Marlowe, mais enfin ils sont plusieurs dizaines, ils inventent une langue. Donc ils inventent une langue au moment de... C'est-à-dire qu'ils vont reprendre l'anglais, et vous voyez que le français, c'est vraiment, on est dans une autre histoire, et l'anglais, ils vont fabriquer une langue théâtrale, particulière, je ne suis pas sûr qu'elle se soit maintenue par la suite. Donc à travers des vers très étranges, donc, je cite les auteurs de l'introduction, ils vont procéder à une véritable révolution du langage poétique, et donc ils vont inventer un langage capable d'exprimer l'anarchie, là c'est moi qui dis ça, l'anarchie du monde, des forces et des désirs. Donc je cite la traduction. Cette langue admirable et vigoureuse sert des personnages dont l'ambition insatiable est à la taille de l'univers. Voilà, c'est ça qu'ils ont écrit. C'est extraordinaire, ça illustre vraiment. Cette langue admirable et vigoureuse sert des personnages. Donc ils inventent une langue qui sert des personnages. On retrouve les personnages conceptuels. Donc c'est des personnages extraordinaires. Richard IV, non Richard III. Si vous avez lu les pièces de Shakespeare, Richard III, on ne l'oublie pas. Enfin, moi, j'ai commencé à lire des trucs de Shakespeare, je devais être en troisième, on est sidéré quand on lit ça. Donc, cette langue admirable et vigoureuse sert des personnages dont l'ambition insatiable est à la taille de l'univers, et l'auteur de l'introduction, je ne vous donne pas les noms, dit « à moins que celui-ci, l'univers, ne soit trop étroit pour eux ». Voilà, on est en plein dans la thèse que... C'est ça la thèse monadologique. C'est que tout le dehors, je l'ai en moi, et j'ai encore plus que le dehors. Voilà. Donc ça veut dire que la force dionysiaque, elle est infiniment plus grande que... Et donc les personnages de ce théâtre, dans le langage de l'ordre, on va dire, ce sont des monstres. Hein, dont on retrouve tous les problèmes très compliqués sur Foucault et l'intérêt. Qu'est-ce que c'est qu'un monstre, quoi, dans l'ordre des choses? Donc la parole, on retrouve le double visage de la parole. La parole est du côté de la capture et de la mise en ordre, mais la parole peut devenir un moyen d'expression si elle s'ajoute la musique, si s'ajoute la poésie, si s'ajoute... Donc l'exemple, alors là, c'est là où ils font feu de tout bois et l'introduction le présente bien. C'est-à-dire comme l'Angleterre s'ouvre au monde entier, les auteurs disent relisez le théâtre élisabéthain parce que tous les mots du monde entier vont venir, donc ils donnent des exemples, Zanzibar, quoi. Enfin, ce mot, on le trouve dans le théâtre élisabéthain, c'est-à-dire que la langue anglaise se met à parler tous les idiomes du monde. Et je termine sur une citation, donc voilà, ils disent le rythme, alors ils parlent sonorité exotique, la Méditerranée, l'Orient, Zanzibar, l'Afrique, ainsi que de rythme et d'images inoubliables, le vers ronfle, ce par d'accent épique qui alterne avec la sécheresse d'apostrophes cruelles et cyniques à l'égard des ennemis. Ça, c'est Marlowe. Dernière citation, et j'arrête. ces personnages, donc je retrouve cette notion de personnage conceptuel qui arrive à accrocher à la fois l'expression théâtrale et la langue, ces personnages se définissent tous comme des, c'est un mot anglais, over-richer, comment vous diriez ? Over-richer, non ? Over, et plus loin, avec un R encore, rich, R-E-A-C-H-E-R-S, richer. Voilà. Donc, voilà, qui dépasse les limites, et voilà. Donc, un mot que l'on pourrait traduire, donc moi je vais le traduire par le concept de Simondon, être plus que soi-même, donc ce qu'on a dit. Donc, grâce aux pièces de Marlowe, à la langue de Marlowe, parce que c'était de lui qu'il s'agissait, on sait que les êtres humains sont plus qu'eux-mêmes, donc plus que l'univers lui-même, puisqu'ils ont en eux plus que... Voilà. Donc, on discute. Hein, voilà.